Gravel dans le retour.
Allez, vous vous mêlez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase.
Je comprends.
15h44, 418-971-1021. Audrey, je sais pas si tu le comprends, mais faut y aller dans le trafic.
Oui, je comprends. Oh, la 20 direction Est, débris dans la sortie route La Gueuse, sachez-le. Il y a comme une planche qui traîne à terre d'un coup que vous êtes dans le coin. J'arrête direction Ouest, juste avant Henri IV. Il y a un auditeur qui nous a appelé pendant la pause, que je salue d'ailleurs, là, pour nous dire qu'il y a un accident qui vient tout juste d'arriver, fait que ça va recommencer à refouler. D'ailleurs, n'hésitez jamais, hein, quand il y a des ralentissements comme ça, quand il se passe quelque chose, 780-101 le téléphone, 971-101 par texto.
Émilie du Chaloux Grand Marché est avec nous autres et, mon Dieu, la préparation a été un petit peu plus longue aujourd'hui étant donné qu'on va parler de vieillissement de bière. Salut, Émilie!
Allô!
Il y a beaucoup de gens qui conservent, il y a beaucoup de gens qui achètent pour faire vieillir. On a eu beaucoup de textos dans les dernières minutes. Je suis surpris! Parce que moi, je suis pas capable. j'ai jamais assez acheté pour être capable de garder longtemps. Par contre, j'ai une blonde qui est collectionneuse ou amasseuse compulsive, je ne sais pas, un peu des deux. Mais elle a fait vieillir beaucoup de stock, puis elle le cache pour être sûre que je ne le trouve pas. Et des fois, ça fait des belles découvertes. Puis là, aujourd'hui, on a un mélange des deux. Il y aura des belles découvertes, mais il y a probablement des verres qu'on finira pas, là.
Oui. Sinon, ça se peut qu'on soupe pas, qu'on déjeune pas, puis qu'on dorme très mal. C'est pas impossible.
Y a-t-il un risque qu'on devienne aveugle?
Je me prononce pas sans la présence de mon avocat.
Non, plus sérieusement, tu sais, on a pris des précautions avant d'ouvrir nos bières. Des gens qui font vieillir des bières. Premièrement, l'environnement idéal. Et deuxièmement, y a-t-il une façon de faire pour limiter les risques, mettons, d'explosion ou de ballonnage de bière?
Denis, tu as guidé le navire comme un pro. Il nous a dit, quand on s'échangeait en texto la gang, qu'est-ce que vous pensez si on faisait dormir les bières un petit 24 heures dans le frigo? Très ouais. Bon réflexe.
Oui, c'est un bon, ça marche pour vrai. Oui.
Oui, parce que ce que ça va faire, ça va endormir un peu les levures qui ont tendance à vouloir être très actives. Puis dès que la levure est active, elle a envie de sortir, elle a envie de vivre. Donc, elle va se calmer à ce moment-là.
Avec les bouteilles de vin, souvent, on va les placer à l'horizontale. La bière, c'est vraiment à la verticale à cause des dépôts. Hein?
Absolument. Dépôt, mais aussi, on veut pas le contact avec le bouchon.
Oh, OK.
On veut pas le contact avec le bouchon, que ce soit au niveau d'un bouchon de liage ou d'un bouchon aluminium, mais en métal, disons capsule, comme ça. Ouais. Exactement. Ça peut venir altérer votre bière définitivement.
Quelqu'un qui a gardé une bière plusieurs années au frigo, est-ce que ça tempère, ça altère-tu son vieillissement?
Oui, ça va venir jouer dessus. Des fois, ça peut être positif.
OK.
Oublions pas qu'il y a des ennemis dans la bière, hein? L'oxygène et la lumière, entre autres, puis les écarts de température aussi. Si vous avez une pièce dans laquelle vous faites vieillir votre bière qui se promène énormément, ça peut venir avoir un impact, des fois positif aussi, ça peut arriver.
Est-ce que c'est une science exacte? Quelle catégorie de bière va bien vieillir? Quelle catégorie de bière va mal vieillir?
Il y a des bières qu'on n'encourage pas les gens à faire vieillir, puis il n'y a pas d'avantage à le faire. Je parlerai, exemple, d'une bière sûre classique, un Berliner Weiss, donc une bière acidulée autour de 3-4 % avec des fruits dedans. Faites-le pour l'expérience. Vous avez envie de vous amuser, c'est pas moi qui va venir vous dire quoi faire après-midi. Essayez-le, ça peut être très intéressant. Je mets un bémol, si cette bière-là a été vieillie en barrique, hé là, amuse-toi à faire vieillir ça. Là, tu peux avoir des trucs très intéressants.
Fait, dès que c'est en barrique, il peut y avoir un avantage à la conserver un petit peu plus longtemps avant consommation.
Oui, il y a un potentiel qui peut amener ton produit ailleurs.
On entend souvent que les IPA, plus elles sont fraîches, plus il faut les consommer rapidement, idéalement.
Sinon, ils perdent de la saveur, c'est ça?
Tout à fait. Oui.
Existe-tu des IPA barriqués?
Oui.
Ça, tu peux les faire vieillir?
Oui.
Oh mon Dieu, c'est compliqué, t'es
mon règle. Dieu, oui.
La barrique prend le dessus sur tout. C'est elle qui a le dernier mot,
presque,
c'est ça?
Presque. Taux d'alcool, OK? On fait un petit survol rapide parce que je vois que vous avez des questions. Je suis convaincue que les auditeurs, auditrices en ont énormément aussi. Qu'est-ce qui peut vous amener à prendre la décision de faire vieillir une bière? Voici quelques indices. Un, elle a un taux d'alcool élevé.
Okay. C'est élevé à partir de combien?
Je dirais un 6, taux 7. De 8.
Oh, OK.
8. 6, si on tombe... Hey, il y a tellement de si puis de peut-être, mais en tout cas, écoute, on va essayer du mieux qu'on peut. Si on tombe dans des bières de style saison avec des levures sauvages, des trucs comme ça, les levures sauvages, c'est oui, hein? Faites maturer
ah,
ça.
Oui?
Ah, mon Dieu, oui. Wow, oui, ils sont nés pour ça. Ils sont
okay,
d'accord.
Okay.
Plus les bières sont foncées, elle a un potentiel de vieillissement qui va être plus important, qui va donner des résultats un peu plus intéressants aussi.
OK.
Comme on disait, des bières sauvages, bien sûr, des bières refermentées comme des bières belges, des bières d'Unibrou. Ce qu'on va faire, c'est ça qu'on veut dans ce type de produit-là, en fait. Avant de remettre la capsule, on va soit parfois ajouter un petit peu de levure et du sucre pour que le produit continue à évoluer. C'est okay. ça qu'on veut, c'est des bières refermentées en bouteille, qu'on appelle.
Souvent, Unibrou, on va voir qu'ils font des verticales avec leurs produits, le même produit sur plusieurs années. Fait que tu vas ajuster selon le... En fait, tu vas goûter à la différence selon la durée. Là.
C'est ça qui est le fun aussi. Quelques petites règles vite, n'oubliez pas. Quand vous allez faire vieillir un produit, le produit, après tant d'années que vous allez avoir dans vos mains, c'est un nouveau produit. Oui, il peut avoir des pistes aromatiques qui vont ressembler à vos anciens produits, le produit que vous avez donc aimé quand vous l'avez bu il y a 10 ans.
Mais si tu fais l'étiquette en arrière avec les pistes que les autres te donnent, ça se peut que ça ne ressemble plus pas tout à ça.
Ça se peut qu'on ne soit plus là, mais c'est la beauté de l'exercice aussi. En fait, c'est que la limite de un est à la limite de l'autre. Quelqu'un qui va avoir un produit dans son verre, qui va avoir des notes très sauvages, très chevalines, va faire « aïe, je capote ». Véro Bergeron, à l'occurrence.
Bonjour.
Alors que d'autres vont faire « Oh non, ça, c'est trop pour moi. J'aurais dû la garder 2 ans de moins. Puis peut-être que le fruit, la pêche aurait été plus équilibrée. Ça aurait été intéressant. » Amusez-vous, en fait.
Pascal dit « Les bières, c'est comme les humains. C'est pas tout qui vieillit bien.
» Ah! C'est bien dit.
J'haïs pas ça. Est-ce qu'il y a des saveurs qui disparaissent en vieillissant? Je prends l'exemple. On a dégusté, nous autres, des packs de Dieu du ciel. Tu sais, ils en font à chaque année. Puis des fois, ils essayent des affaires plus funky avec du cassis puis des affaires de même. Puis je remarque qu'après quelques années de vieillissement, il y a vraiment des saveurs qui deviennent là, complètement invisibles.
Absolument. Il y a différents trucs. J'en ai noté quelques-unes. Là. L'alcool. Si on tombe avec un produit frais du jour qui est déjà avec des belles notes alcoolisées franches, ça va aider à la préservation du produit. Ce côté alcoolisé-là risque de quand même être encore présent au fil des années. Le houblon, on en parlait un petit peu plus tôt.
Oui, avec les IPA.
C'est très paradoxal, le houblon, parce que, comme Véro le disait, c'est un produit qui va déprécier rapidement. Est-ce qu'il sera plus bon? Pas du tout. Vous n'avez pas de risque à boire une IPA qui est vieille de 4 ans, mais elle ne sera vraiment pas à son plein potentiel parce que toutes les notes aromatiques du houblon vont avoir disparu.
Mettons le côté résine qui est souvent là à cause de la fraîcheur. Là.
Résine va se transformer en un côté un peu plus terreux avec les houblons. Okay. Il ne va pas disparaître complètement, mais il va se battre encore plus fort que les côtés tropicaux, les côtés fruités des houblons. Mais ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que le houblon réserve quand même toutes ses proportions, ses propriétés de conservation. C'est un antiseptique. Malgré qu'il va perdre son goût, il va continuer à conserver la bière de manière adéquate. Fait que c'est quand même assez exceptionnel.
Vraiment.
Là, on a 4 produits devant nous. Je sais qu'on a tout fouillé dans le fond de nos garde-robes respectifs, puis on en avait trop. Fait que là, on a comme choisi une sélection de 4, des bonnes et des moins bonnes, j'imagine.
Notre palais va nous le dire.
Le premier SS, je pense que c'est une bière que Véro a sortie de son garde-robe.
Absolument.
Ça, je me doute que c'était fait pour être vieilli.
Oui.
J'ai-tu amené un coup de circuit?
Ben, j'ai triché. J'ai goûté un petit peu avant, à part une la dernière. Je voulais vous attendre. Elle s'appelle la Miss Myrtille, micro du lac Saint-Jean. Bière hybride Pinot. Donc, j'ose penser qu'ils ont travaillé soit avec la barrique de Pinot ou qu'ils ont récupéré des pots de raisin de cépage Pinot pour venir macérer dans la bière. Un beau gros 9 %.
Mais ça sent bon, ça.
Ça sent très
bon.
C'est fantastique. Il y a une belle acidité dans ce produit-là. Évidemment, la myrtille, ça demeure quand même un fruit qui va avoir une petite acidité aussi. Ce qu'on dénote aussi, vous regardez dans vos verres, hein, on est tous sur des couleurs d'automne. Hein?
Oui,
on
ça
est
a tout foncé. Brun, c'est très caramel.
Dans tous les verres qu'on a. Ça serait intéressant de voir. Je pense que le vieillissement vient jouer sur la couleur de ton produit aussi définitivement.
Ça a combien d'années, ça?
Véro, combien, le sais-tu?
Ça doit avoir pas loin de 10 ans, j'imagine.
Oh, okay. Oh, oh, oh. J'ai pas le détail sur la bouteille, mais écoute, j'aurais pas été stressée moi non plus. Je pense que Véro, j'aurais fait la même chose que toi. J'aurais envoyé ça dans le cellier facilement.
Est-ce qu'en vieillissant, c'est le sucre et l'alcool qui prennent le plus de place et au goût et au nez? Parce qu'il y a un petit côté caramel que je retrouve quasiment dans toutes les bières vieillies, dont celle-là.
La madérisation.
Ouais. C'est exactement ça. On va le voir dans le Madère, dans le Porto, des trucs comme ça. Donc, ça va venir jouer sur, effectivement, donner un côté caramel. Des fois, des petits fruits séchés aussi. Donc, abricots, des trucs comme ça. Aimes-tu ça, André?
Je trouve ça quand même bon, mais on dirait que ça sent plus sucré que c'est réellement sucré.
C'est plus alcoolisé au goût. que sucré, j'ai trouvé.
Oui. Et ça aussi, hein, le taux d'alcool peut grimper dans votre produit. Ah, si, voilà. Si le produit continue à fermenter, la levure mange les sucres, imaginez ce qui se passe. Donc, le taux d'alcool, difficile de le déterminer ensuite.
On dirait quasiment un petit digestif léger. Là.
Mais la finale n'est pas longue en bouche.
Non,
hein?
Non, non.
Le goût s'éteint très rapidement pour une bière à 9 %. C'est assez impressionnant.
Il y a quelqu'un qui a une question sur le Twitch, puis je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est mieux de faire vieillir une bière en canne ou en bouteille? Ou ça ne change rien?
Personnellement, j'irais avec la bouteille. On est quand même encore au premier balbutiement des vieillissements de bière canette. Oublions pas que dans la canette, il va y avoir une petite pellicule aussi là, qui se retrouve à l'intérieur de la canette. Est-ce que ça va venir avoir un impact sur le goût du produit, sur sa conservation aussi? Il est trop tôt un peu pour le dire. Je suis en train de faire des tests chez nous. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner des vieillissements à canette. Personnellement, j'y crois un peu moins parce que il n'y a pas d'air dans le produit.
Okay.
La canette, là, on remplit jusqu'au bord puis on ferme ça alors qu'il n'y a pas de matière qui peut bouger.
Il n'y a pas de jeu.
Exactement. Fait que j'ai l'impression que ça peut... je dis pas que ce serait mauvais. J'ai vraiment hâte de voir, en fait.
Je m'attendais à mieux en passant.
Oui.
Comme bière vieillie. C'est bon, là.
Elle flatte un peu.
Je la trouve flatte.
Ouais,
Je suis comme... C'est correct qu'on l'ait bu en test. Une chance que je ne l'ai pas choisi pour... on va prendre une belle bière pour un événement.
Mais ça veut dire aussi que peut-être que... 3 ans de moins, elle aurait été à son plein potentiel.
Peut-être.
Ça, c'est dur aussi. Puis, tu sais, rendez-vous pas malade avec ça, là.
Ouais.
Tu sais...
Ce qui est le fun, puis on n'a pas tout le temps, écoute, le luxe de faire ça, mais ce qui est le fun, c'est d'avoir la même bière, mais sur plusieurs déclinaisons. Je
la
veux dire,
une
qui est vieillie de 8 ans, une que tu viens d'acheter, une qui est vieillie de 3 ans, mettons, pour goûter la différence. Quand tu as la chance de faire ça, là, tu es capable de repérer les différences puis les nuances. Là.
Une des raisons pour laquelle j'adore les bières en bouteille de Trois Mousquetaires, c'est ça. Mm-hmm. Derrière l'étiquette, tu as tous les ingrédients,
ouais.
Tu as tout le détail. Fait que là, tu peux vraiment venir cibler, est-ce que c'est 100 % les mêmes ingrédients qu'il y a dans ma bière? Est-ce que c'est la même barrique? Bien sûr qu'un nom de barrique, ça ne se réutilise pas nécessairement à l'infini. Hein? Donc, d'une année à l'autre, la barrique va être différente. Elle va être plus poreuse. Elle va avoir absorbé plus d'alcool. Fait que ça vient jouer aussi sur ton produit final, définitivement.
Le produit numéro 2, c'est qui l'a sélectionné?
Denis, c'est toi.
C'est le mien.
Oui.
Celui avec un post-it qui n'a rien d'écrit dessus, là?
Oui.
OK. Je viens de vérifier si la bière a existé réellement.
Okay.
Et la réponse, c'est oui. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'ai mis la main là-dessus. Ça a 10 ans. C'est une fin du monde de Unibrew qui a passé 14 mois en fût de tequila.
Moi, je le sais comment tu as mis la main là-dessus.
Comment?
À l'époque, Unibrew avait commencé à faire des recherches et développements, puis on avait reçu le responsable de la recherche et développement.
C'est lui qui nous avait amené ça?
Et c'est lui qui nous avait amené ça.
Ah ouais.
C'est extraordinaire.
C'est très bon.
Extraordinaire. Au nez, je sais pas si vous le sentez.
Ça, c'est bon.
J'ai l'impression d'avoir le nez dans un pot de betterave marinée. Je sais pas si vous comprenez.
L'espèce de petit sucré,
mais
légumes
pas
sucrés.
Un peu,
oui,
hein?
Exactement. Ça goûte pas du tout ça en bouche. La barrique de tequila elle vient donner un équilibre extraordinaire. Ça se prolonge en bouche. On le sent bien, la barrique, mais c'est pas lourd.
Mais j'ai l'impression qu'elle aurait déjà pu être plus goûteuse que ça. Ça se peut-tu?
Oui. Je pense que c'est le côté flat qui nous donne cette impression-là. Audrey,
ça
on est
peut.
Tellement habitué que le pétillant d'une bière, on dirait que sur les papiers, ça donne
sûr.
Une autre twist aux saveurs.
Mais
là.
Comparé à la première, celle-là réchauffe, puis le goût reste en bouche plus longtemps.
C'est extraordinaire.
Ouais.
C'est la beauté des produits d'Unibrew. Aussi, hein, puis des bières belges, c'est ça. Là, tu as un tout autre produit dans ton verre. Je suis pas une grande fan de fin du monde, de ces trucs-là, parce que je suis pas une grande fan de bières belges à la base. Mais ça, j'en veux n'importe quand.
En fait, je goûte plus les levures belges, fait que c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est un peu ça.
Content d'en avoir une à partager qui a bien vieilli puis qui procure vraiment ce genre d'expérience-là. Je sais pertinemment que c'est pas le cas des 4 produits qu'on a sous la main.
Non, puis on a dénoté quelque chose, hein? Il n'y a plus d'effervescence ou très peu dans nos produits.
Mais ça, c'est le cas tout le temps. Hein?
Le vieillissement, c'est toujours ça. Les bières belges, on peut faire une petite distinction, et les bières sauvages, parce qu'elles continuent à vivre dans la bouteille. Donc là, des fois, on peut avoir des belles surprises. Des fois, on peut avoir des explosions aussi. En général, on va avoir encore un peu de bulles. C'est le cas ici, c'est très léger. Là, on parle un peu plus d'une petite effervescence très mince,
c'est
mais
très
est un petit peu là.
Ouais.
Le produit numéro 3, c'est drôle, j'ai confiance. Au nez, j'ai confiance que c'est un truc qui devrait très bien vieillir.
Ça sent le Porto.
Hey, j'ai fait quelque chose pour l'équipe. J'ai ramassé toute la roche du fond.
la tienne, on dirait un fond de marais. Là.
Oui, exactement. On voit absolument pas au travers. Il y a de la vie là-dedans. J'ai commencé mon amour du vieillissement des bières avec Saint-Ambroise, McCaslin, parce qu'il faisait des millésimés à chaque année.
OK, c'est toi qui gagne. Y avait-tu une compétition? C'est toi qui gagne.
Ben, tu vois, moi, j'ai préféré celle de Denis, la celle qu'on vient de goûter précédemment. Ben, peut-être c'est la rage qui me joue des tours.
Peut-être.
OK? Mm-hmm. Je pigerais peut-être dans un de vos verres. Tiens. C'est un millésimé 2012. Mm. Elle a tellement été bien entreposée, cette bière-là. Des fois, je suis une cordonnière mal chaussée, mais pas cette fois-ci. 2012, vintage, c'est une bière à 10 %. J'ai l'impression qu'elle a peut-être pris un petit kick de plus.
Ah oh, non, elle est très porto.
C'est ça, hein? Oh, madérisation, ouais. Quand on parle de madérisation, ça, c'en est un parfait exemple. Il y a le côté maltais qui va être là, mais il y a des petits fruits qui sortent. Mais il y a un côté un peu... elle se prolonge en bouche, mais c'est pas lourd.
Mais non. Oui, mon cheddar fort pour aller avec cette bière.
On aurait dû y penser avant. Ah, il y a quelque chose là. Hein?
Tu comprends pourquoi je dis que tu gagnes?
Ah, c'est extraordinaire.
Je trouve qu'il y a une complexité de saveur. Je trouve que dans ce cas-ci, le fait qu'il y ait moins d'effervescence, c'est pas grave. C'est vraiment épatant.
Puis au départ, ce qu'on annonçait dans ce produit-là, là, quand il était dans ses belles années, là, bonne saveur maltée, petite pointe fruitée, malt caramel. Caramel cuit un peu, butterscotch, ça, c'est la signature de Saint-Ambroise, McCaslin. Ils ont vraiment un côté butterscotch.
Ouais.
Ça, c'est la manière d'utiliser le malt. Des fois, c'est un défaut dans une bière. Des fois, ça peut être une qualité. Pointe de houblon. Là, on le sent, l'amertume, moi, elle me colle un peu à la fin. Je sais pas, désagréable, honnêtement. Puis rondeur de l'alcool, bien sûr. Mais là, c'est tellement enveloppant. C'est tellement beau. C'est génial.
C'est plate de passer de cette bière-là à la sélection finale, parce qu'habituellement, on se garde le meilleur pour la fin, mais pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui.
D'ailleurs, avant la sélection finale, il y a peut-être une question qui pourrait fitter. Il y a quelqu'un qui nous écrit sur le texto. Allô, moi, c'est Oli pour les questions sur les bières. C'est pas une micro, c'est une bière commerciale. Je suis pas un grand buveur. J'ai retrouvé une 60 de Budweiser après 5 ans, qui était pour un déménagement. C'est-tu encore bon?
J'ai envie de dire que oui. C'est sûr que ça, elle est entreposée dans les pires conditions, elle a fait chaud-froid, tu l'as redéménagé quatre fois. Ben, ça se peut qu'elle soit pas fraîche-fraîche, mais écoute...
T'as rien à perdre.
Moi, je mets ça dans la case, t'es pas game. C'est drette là qu'on s'en va, en fait.
Ouais, tu nous as gardé pour dessert un produit qui n'existe plus.
Non! J'avais ça chez nous. Écoute, on a un vieux crête de bois chez nous avec 6 variétés de produits Molson au fil des ans.
OK.
Cette bière-là date de 1998.
Arrête.
À cette époque, je n'avais même pas l'âge de boire de l'alcool.
Mais ça sent pas épouvantable, c'est
non,
ça le pire.
Non, je vous parle de la Molson High Dry.
D'habitude, la Molson, c'est blond. Là, on a une bière jaune foncée, là.
Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, la Molson High Dry, dans le temps?
Écoute, j'ai retrouvé un sous-verre de High Dry
un
chez
vrai sous-verre High Dry,
Je vous fais cette lecture. En utilisant le procédé de brassage extra sec unique à Molson Dry, la Molson Dry que tout le monde connaît qui existe encore, là, on a haussé le niveau. Nos maîtres brasseurs ont trouvé l'ultime équilibre entre douceur et plus haute teneur en alcool. Molson High Dry, toujours sans arrière-goût, et 6,5 à l'échelle dry.
On se vantait que nos bières n'avaient pas d'arrière-goût dans le temps, alors que souvent, c'est la finale que tu recherches à cette heure, ça me fait rire.
J'ai gardé la poussière dessus. Je voulais l'amener intact. 1980. J'ai jamais fait ça. On est sans filet après-midi.
Mon Dieu Seigneur. Il n'y a pas de risque.
On peut dans le filet, c'est ça?
Oui, il n'y a pas de risque pour la santé.
Je réponds pas à ça.
OK, on va y aller, santé. Après, sauce piquante, moi, je prends tout.
Honnêtement, cette bière-là, elle a été conservée dans les pires conditions. Sur le bord de la porte patio, plein soleil, hiver, automne, on l'a déménagée à plus qu'une reprise. OK, Denis, vas-y.
C'est pas plaisant.
C'est pas plaisant.
Je m'attendais à vraiment pire que ça, par exemple.
Oui?
Ouais.
Mais... Je m'attendais à pire aussi. C'est vide un peu.
Ouais.
Au nez, c'est madérisé.
Oui.
Comme les autres produits qu'on a là.
Tu sais, de l'eau d'érable qui goûte poyable, c'est le feeling que j'ai. C'est pas de l'eau, c'est pas de la bière, c'est à quelque part entre les deux.
Ça vous est déjà arrivé quand vous étiez jeune d'aller fouiller dans le garde-manger puis d'essayer de faire des espèces de potions maison, là? Tu mets un peu de sirop de maïs avec un peu d'eau, puis
On a goûté des affaires ensemble, Émilie, je t'ai jamais vu faire ce face-là.
Ah, c'est pas possible. Mais comme Véro dit, c'est pas dégoûtant. Dans
ça,
le sens
ça goûte
que...
juste pas à bière.
Puis... J'ai l'impression de boire une eau sucrée, en fait. C'est carrément ça.
On est tous en même place.
C'est carrément ça. C'est pas désagréable.
C'est de l'eau au sirop de maïs.
Est-ce que je vais boire ce verre? Clairement pas.
Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que ça a beau être très léger en bouche, tu te dis, je sais pas trop ce qu'il y a dedans rendu là.
Mais elle a gagné du corps.
Elle a perdu l'alcool.
Elle a perdu de l'alcool, ça serait capoté en tabarouette.
Mais c'est l'impression que ça donne, au goût.
Rien ne se perd, rien ne se crée, qu'ils disent.
Fait que si vous avez une vieille Molson High Dry, puis peut-être que vous allez vivre la même expérience. C'est tout le temps le même exemple qu'on nous ramène, là, mais la fameuse bière Metallica de Budweiser. Il y en a qui les ont gardées et qui les ont jamais bu. Si l'envie vous prend d'en ouvrir une, vous ne triperez pas votre vie, mais vous ne tomberez pas sans connaissance non plus. Quelque part entre les deux.
On ramène des souvenirs à des gens qui disent que la High Dry, c'est leur première brosse à Saint-Denis.
Ah, ouais.
Ça, c'est cool.
Ah, clairement. Moi, c'était la Molson Dry, oui, clairement.
Oui, bien, c'est un bel exercice, par exemple.
Vraiment,
c'est le fun.
J'ai adoré ça. Assez qu'on va se faire une édition 2, on n'aura pas le choix.
Ouais.
Il reste des bières à passer.
Si je veux donner des petits twists aux gens, là, amusez-vous, faites des tests.
Oui.
Retenez ça, si les bières sont barriquées, c'est oui, on peut le faire. Mais il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Allez-y au maximum. Vous voulez faire... Oui, Véro?
Si vous voulez vous amuser, si c'est une bière qui existe encore, achetez la version la plus récente.
Oui.
Toujours.
Pour pouvoir comparer entre les deux.
Oui.
C'est pour ça aussi qu'au Grand Marché, j'aime ça. Je ramène des bières un peu plus vieilles. Des fois, on va avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans. Central Scotch qui vient de sortir, là.
Ouais, tu me fais plaisir quand tu fais ça, là.
Regarde,
ouais,
puis
ouais,
je me fais plaisir, bien honnêtement. On ne se cachera pas rien après-midi, là. Donc, là, c'est le temps de mettre la main là-dessus puis de vous amuser. Ouvrez ça en gang, faites des comparaisons.
Oui.
On se prend pas au sérieux, là. Amusez-vous là-dedans, c'est ça que je peux vous dire.
C'est fait pour ça, à la base.
En passant, je vous ai mis les produits qu'on a testés aujourd'hui sur Instagram, mais surtout suivi des règles de base des bières qu'on peut faire vieillir.
Merci.
Vous auriez ça sur le profil de Boulevard.
Ma première brosse, c'était 4 bouteilles de Molson Grand Nord, les gens qui se souviennent de la Molson Grand Nord.
Avec les pubs interactives, mais qu'est-ce qui va se passer avec
les autres? C'était les pubs dont vous êtes le héros, ouais. T'as bien raison. Hey, Émilie, merci beaucoup.
On a encore un peu de temps?
On a encore un petit peu de temps.
OK, je fais ça vite parce que je voulais pas qu'on passe à côté de ça. Denis, on partage beaucoup de choses.
Oui.
Notre amour de Boston.
Oui.
Notre amour de Sam Adams.
Uh-huh.
Pour la première fois au Canada, Sam Adams débarque avec sa bière Oktoberfest. C'est la première fois qu'elle a franchi les frontières.
Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Est-ce que c'est une bière aux épices?
C'est pas une bière aux épices. Okay. C'est une mardienne. Traditionnelle allemande pour fêter l'Oktoberfest, des bières pintables. Je vous en ai apporté un instant, je disparais sous la table.
Ça, c'est une des seasonals de Sam Adams. Quand tu vas te promener à Boston, dépendamment de la saison dans laquelle tu te retrouves dans la ville, c'est elle qui va être disponible en fût. Oh, la belle canette citrouille jaune-orange.
Yes, monsieur. 5,3% d'alcool, elle vient juste d'arriver. Petit prix chaloux, c'est disponible pour un temps limité. C'est tellement un des bons vendeurs chez Sam Adams. Il y a des clients, ça fait à peu près un mois et demi qu'ils me demandent cette bière-là. Elle est enfin arrivée. Pintable à mort, ceux et celles qui vont sortir le barbecue en fin de semaine. Bière saucisse, c'est parfait pour ça. Elle est disponible seulement du mois d'août au mois d'octobre. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, c'est maintenant.
Allez faire des provisions, les amis, dans vos 3 chaloux de la grande région de Québec, Saint-Émile, Beauport et Grand Marché.
J'ai-tu encore du temps?
Ben là, tu fais attendre Pierre-Aude, là, c'est ton corps le rendu.
OK,
mais
ben regarde, je reste puis je reviens après. Il ne faut pas passer à côté de ça.
Okay.
On peut pas. On parle de bière vieillie.
Oui.
J'ai un produit de Sam Adams.
Ouais.
Ben rare.
Pour vrai?
Que vous ne pourrez pas acheter.
Hein?
Quand tu parles de bière vieillie, il faut que tu passes par là une fois dans ta vie.
OK.
Bon, mais crème, attire-toi une bûche.
Je vous dis. Je vais juste dire un mot, ça s'appelle Utopia. Je dis ça.
Ouais, j'ai entendu parler de ça.
OK.
Ouais. Fait mal, ça. 16h07. Fait qu'on va la prendre pendant la pause. On revient, ça sera pas long. On se branche avec Pierrot au retour. Restez là.
Pour joindre l'équipe de Gravel,